Sophie l'a dit, c'est maintenant le moment où nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, où nous l'interrogeons et où nous cherchons à comprendre eh bien, ce que Dieu veut nous dire, comment il veut nous diriger dans notre vie aujourd'hui. Parce que nous croyons que la Bible nous parle pour notre vie quotidienne. J'aimerais partir d'un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous souhaitez, vous pouvez l'écouter, en écouter la lecture, je vais le lire. Donc c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6. C'est plutôt au début du récit que fait Jean, au début de son évangile. Et là, au chapitre 6, Jésus, la chronologie n'est pas la chose la plus précise dans ce début de l'évangile de Jean, mais il revient d'un voyage qu'il a fait à Jérusalem pour une fête. Donc Jérusalem, c'est la capitale, et donc ça a été l'occasion d'être vu, d'être connu. Et là, il repart en Galilée, plus au nord. Donc, Jean, chapitre 6. Après cela, Jean s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pas d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites installer ces gens, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. » Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient et ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Je ne sais pas si vous connaissez ce récit de la multiplication des pains. C'est quand même un récit connu de l'Évangile. Et c'est le seul miracle qui se trouve dans les 4 Évangiles. Il y a plusieurs Évangiles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs des apôtres, des disciples de Jésus, qui ont voulu rendre témoignage de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et puis, comme toujours dans les témoignages, les gens ne disent pas la même chose parce que ce n'est pas la même chose qui a eu de l'importance pour eux. Ce n'est pas forcément la même chose qui les a touchés. Mais là, ce miracle-là, il les a tous touchés. Ce n'est pas forcément la même chose qui les a frappés, mais tous, il les a frappés. Et je pense que si tous le rapportent, si tous il les a touchés, c'est qu'il y a une signification particulière à ce miracle. Déjà, c'est impressionnant de voir que Jésus a nourri une foule à partir de pas grand-chose. Et pour ne laisser aucun doute sur le fait que Jésus a multiplié au-delà de ce qu'il fallait, il reste 12 corbeilles à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, et après que tout le monde ait mangé, il y en avait encore plus qu'au départ. Et là, dans ce miracle, eh bien, Jésus ressemble au Dieu créateur. Mais il y a une autre signification, et on le voit quand on lit la suite de l'évangile de Jean. Jésus a produit ce miracle, Jean dit un signe, parce qu'il avait aussi quelque chose à faire passer, un enseignement. Et ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas seulement de la nourriture, quelque chose qui rassasie pour un jour, pour deux si le repas était particulièrement important, mais après il faut bien remanger un jour. Non, ce que vient dire Jésus et montrer, c'est qu'il est le pain de vie. Le pain qui rassasie, pas seulement le corps, mais qui vient étancher les besoins spirituels, les besoins profonds des hommes. Il vient apporter la paix, la réconciliation, un sens à la vie. Et juste après, dans le même chapitre, un peu plus loin, Jésus dira à ceux qui l'interrogent, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Donc par ce miracle, Jésus vient montrer qu'il nourrit. Et pas seulement qu'il nourrit pour aujourd'hui comme avec du pain, mais qu'il nourrit profondément les besoins et les attentes profondes que l'humanité peut avoir. Mais avec ce texte que j'ai pris, j'aimerais me concentrer plutôt sur les disciples, sur cette conversation, sur cet échange qu'il y a entre Jésus et eux, sur ce qu'ils vont faire. Parce que dans cette scène, il y a la foule à nourrir, mais il y a aussi les disciples. Et c'est souvent le cas dans l'Évangile, on voit les deux. La foule qui est là, la foule qui est curieuse, qui veut en savoir plus, qui revient toujours vers Jésus, mais qui ne comprend pas tout. Et puis les disciples. Ceux que Jésus a choisis pour enseigner et pour poursuivre son action après lui. La foule, elle est là pour deux raisons. Déjà, il y a ceux qui veulent être guéris. Et quand on lit l'Évangile, on voit que parce que Jésus guérissait, ils étaient nombreux à le suivre pour être guéris. Mais en plus de ceux qui le suivaient pour être guéris, il y a aussi ceux qui suivent pour voir les guérisons. Parce que les miracles, les choses qui bougent comme ça, ça les attire. Et là, on l'a lu hein, dans ce texte, ils le suivaient pour voir les signes. Et puis, il y a les disciples. Eux, ils suivent Jésus parce que Jésus les a choisis. Et que Jésus leur a demandé de le suivre. Parce qu'il a un objectif pour eux, un objectif de formation. Il veut leur confier une mission. Et pendant ces 3 ans où il est sur terre, où il sillonne la Judée, la Galilée, toute cette partie du monde, eh bien, il les forme pour qu'ils puissent prendre la suite et établir l'Église. Parce que Jésus, il est venu dans le monde pas pour récolter des adhérents, mais pour former des disciples, des élèves, des personnes qui vont prendre son travail, qui vont continuer son travail après lui. Donc regardons un peu comment ça se passe avec les disciples dans ce récit. On voit 2 disciples et 2 mauvaises réponses. La première, c'est celle de Philippe. Philippe qui dit « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu ». Philippe, il est méthodique. Il est méthodique et il regarde qu'est-ce qu'il faudrait pour nourrir cette foule. Bon, il faut dire que Jésus, dans sa question, il est un peu facétieux, il l'a induit en erreur. Il n'a pas demandé qu'est-ce qu'on va faire, il a directement dit comment est-ce qu'on va faire pour acheter du pain. Il l'a un peu conduit là-dedans, sans doute parce que Philippe, c'est le gars méthodique. Quand il y a un problème, il réfléchit à la solution, tout ça pour mettre en œuvre. Il y en a toujours comme ça qui sont dans les églises ou qu'on trouve, et c'est très utile. Mais là, bon, ça coince. Parce qu'il regarde la taille de la foule. La Bible nous dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut imaginer qu'il y avait 10 000 personnes. Il estime combien il faudrait de pain. Il estime le prix et là, waouh! S'il y a 10 000 personnes, mettons que je donne à chacun le quart d'une baguette, il faut 2 500 baguettes. Et si on achète les baguettes à la boulangerie à côté, 75 centimes la baguette, il me faut 1875 euros. Et encore, même si j'ai cette somme à consacrer pour la foule, je ne suis pas sûr qu'ils aient 1875 baguettes en stock. Et quand bien même ils auraient les 1875 baguettes en stock, je ne suis pas sûr que le coffre de ma voiture soit assez grand pour faire le trajet, pour l'amener ici. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas une question d'argent. Il se rend compte, ce n'est pas possible. Après Philippe, il y a André. André, lui, sa réponse, c'est « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» André, il a une approche différente de celle de Philippe. Philippe, il réfléchit à qu'est-ce qu'il faudrait. André, il regarde qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Et là, il voit ce jeune garçon qui vient avec son panier, qui est là, qui est disponible. Donc, il se rend compte, on a quelque chose. Mais il se rend compte aussi que ça ne va pas suffire. Puis certainement, dans une foule de 10 000 personnes, il n'arrive pas à tout voir. Il y en a certainement d'autres qui ont quelque chose. Mais au niveau de la proportion, même si on prend le temps de faire le tour de tout le monde, il y a peu de chances que ça suffise pour nourrir cette foule. Ce petit gars, il avait son pique-nique pour le nourrir. Si on en trouve quelques dizaines, quelques centaines pareilles, ben on peut nourrir quelques dizaines, quelques centaines de personnes, un peu plus en partageant, mais ça ne va pas suffire. Il y en a des gens comme ça, toujours, des pragmatiques, qui savent repérer les talents, qui savent convaincre pour mettre au travail. Mais là aussi, il y a des limites et ça ne marche pas. Deux mauvaises réponses de la part des disciples. Et la bonne réponse, elle vient d'un jeune garçon. Un jeune garçon, un anonyme, on ne connaît pas son nom. Il apparaît là, on le voit nulle part ailleurs. Les autres évangiles ne le citent même pas. Mais il est là et il donne ce qu'il a. Et j'imagine très bien la scène. Vous avez certainement entendu parler d'histoires comme ça où des parents se plaignent devant les enfants. Ah, zut ! On a cassé la voiture et on n'a pas assez d'argent pour la changer. Et que l'enfant répond naïvement, mais c'est pas grave, si tu veux, je te donne mes sous. Et là, c'est pareil, j'imagine que ce garçon, ben, comme il est petit, il s'était installé plutôt devant, il a entendu la discussion et spontanément, il vient et il apporte ce qu'il a. Il apporte ce qu'il a, il le donne, et la suite, on la connaît. Et on est bien d'accord, c'est pas lui qui a nourri la foule, c'est Jésus. Et je dirais même que Jésus n'avait pas besoin de ses pains et de ses poissons. Ce qu'il a fait est bien plus grand que ce qui a été apporté. Et Jésus n'a pas demandé, trouver quelqu'un qui aurait quelque chose et puis après je me charge du reste, je vais le multiplier. Et j'imagine, quel plaisir pour ce garçon de ce que Jésus ait accepté ce qu'il apportait, qu'il y ait donné de la valeur et qu'ensuite il l'utilise. Et qu'il soit capable de nourrir comme ça la foule avec un super pique-nique et avec des restes encore immenses. Quel plaisir pour lui d'avoir été utile dans une si grande œuvre. Alors je disais que la parole de Dieu est utile pour nous aujourd'hui. En quoi est-ce que ça peut être utile pour nous? Je crois que c'est important d'établir et de se souvenir que Jésus nous nourrit. Il apporte au monde la nourriture dont celui-ci a besoin. Il apporte la justice, la paix, la joie. En un mot, il sauve. Parce que c'est aussi de ça, de ce qu'il apporte, dont on parle, quand on parle de salut. Et l'invitation à s'en saisir, à venir à sa table, elle est là, elle est ouverte, elle vous est offerte. Mais il y a aussi autre chose. C'est que Jésus, il ne fait pas ça tout seul. Il a décidé, pour relayer son information au monde, d'utiliser ceux qui le suivent. Je crois fermement qu'il pourrait s'en passer. Il a en lui tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, mais il choisit de faire appel à ceux qui le suivent. Il choisit de nous associer à son œuvre quand il fait du bien au monde. Et c'est ça, la nouvelle vie qu'il offre. On parlait d'une nouvelle vie qui commence quand on sort de l'eau. C'est ça, la nouvelle vie qu'il offre. Nourrir le monde. La tâche est immense. Et je suis persuadé que le monde en a besoin. Quand je lis le journal, quand je lis les rumeurs sur Facebook, quand j'entends les gens qui râlent, je n'ai pas l'impression qu'on vive dans un monde où tout va bien. Le monde a faim, le monde a soif de justice, de paix, de réconciliation. La tâche est immense. En quoi quelques chrétiens peuvent changer les choses, il y a de quoi se sentir dépassé. Et même sans regarder au-delà, si on se concentre sur les habitants de la communauté de communes de Clermont-Ferrand, 290 000 personnes. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas une église qui peut changer les choses pour tout ce monde. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de changer les choses, ce n'est pas de changer le monde. Ce qu'il nous demande, c'est d'apporter ce que nous avons, comme ce petit garçon dans l'histoire. Et Elliot et François n'ont pas grand-chose à apporter. Je ne veux pas leur faire offense, mais je ne crois pas qu'ils aient la capacité de nourrir une telle foule. Et je le dis d'autant plus facilement que j'en suis pas capable non plus, et que je pense que personne parmi nous ce matin n'est capable de cela. Mais de ce pas grand-chose que nous avons et que nous apportons, Jésus nous fait la joie de l'accepter, de le prendre, de le multiplier et de s'en servir pour faire du bien. Et c'est une joie. C'est ça, c'est cette joie, je la vis tous les jours. Quand Dieu se sert de moi, de ce que j'ai, de ce que j'apporte pour faire du bien, alors que j'ai l'impression de ne pas apporter grand-chose, de ne pas avoir beaucoup de réponses en vérité. Et si vous demandez par exemple à Michael qui a accompagné Elliot et François, je suis sûr qu'il dira la même chose, qu'il pourra vous parler de cette joie de les accompagner et puis de voir Dieu agir, toucher les cœurs et puis de cette impression de ne pas faire grand-chose, d'être désarmé. Mais la joie d'être là et d'agir avec Dieu parce qu'il le permet. Certains sont fiers d'appartenir à un groupe, à une entreprise, à un parti politique, à une équipe sportive. Fiers parce qu'il y a quelque chose en quel ils croient et qu'ils voient cette action se développer. Et c'est une belle chose, mais je crois qu'avec collaborer avec Dieu, c'est encore plus grand. C'est une chose encore plus belle. Et la condition pour le faire, c'est d'apporter ce qu'on a. Personne qui soit trop jeune ou trop vieux peut apporter ce qu'on a avec ses fragilités, avec ses fêlures, avec ses blessures qui nous handicapent. Apporter ce qu'on a, simplement, comme ce jeune garçon, offrir à Jésus et le laisser agir à partir de ça. Au moment de conclure, que faire de ce que nous avons entendu ? Déjà, il y a ceux qui sont déjà baptisés, qui ont été baptisés. Et je crois que pour nous qui avons déjà été baptisés, il y a là un rappel. Un rappel de ce à quoi nous nous sommes engagés. Un rappel, mais aussi un encouragement. Un encouragement de voir à travers l'engagement d'Eliott, l'engagement de François, que Dieu agit encore aujourd'hui et agit toujours. Soyons encouragés par cela. Et puis, entendons l'invitation à continuer. Continuer à apporter ce que nous avons et laisser Jésus le multiplier pour faire du bien. Voilà pour ceux qui sont déjà baptisés. Je crois que j'aimerais aussi lancer cette invitation à ceux qui ne sont pas encore baptisés. L'eau est là. Le baptistère est là, il est facile à remplir. Vous pouvez vous engager, vous aussi. Et on ne veut pas freiner ça, on ne veut pas arrêter ça. Et si vous souhaitez vous engager, si vous souhaitez vous faire baptiser, n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir un des responsables de l'église, ou Sophie, ou Michael qui était devant. Vous avez un visage comme ça. Et on va commencer une nouvelle préparation au baptême bientôt. Si vous voulez, si vous avez ce projet, n'hésitez pas à venir nous voir, à en parler. Une invitation à s'engager, une invitation aussi tout simplement à goûter. Goûter le pain de vie qu'est Jésus. Goûter ce qu'il a à nous dire. Goûter cette vie qu'il y a dans l'Église, dans la communauté. Venir, revenir, écouter, se laisser transformer. Être pardonné pour ce que nous avons fait. Réconcilié avec Dieu. Vous pouvez participer à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez apporter ce que vous avez, tout lui remettre et vous laisser émerveiller de ce qu'il fait. Il est le pain de Dieu, celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Il est le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Amen.